Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, pourquoi n'y a-t-il pas de curling au Stade de France ? Vous en aviez rêvé, la maison de la radio l'a fait. Pendant toute la durée de l'Euro 2016 de football, vous allez pouvoir admirer une sélection de maillots mythiques issus de la collection personnelle de Jacques Vendroux, le patron des sports de Radio France. Cerise sur le gâteau, un QR code permettra à chaque visiteur d'écouter une anecdote liée à chacun des maillots présentés. Alors cette exposition événement n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres déployés par Radio France pour couvrir cette compétition. Elle témoigne de l'exceptionnel engouement pour un sport qui, à ses débuts, nous sommes au Moyen-Âge, fut pourtant interdit localement pour son absence de règles et ses excès de violence. Le foot est partout, dans les stades, ce en quoi il n'est pas seul, mais aussi en dehors, certains n'hésitent pas à y voir un fait social total. Aux Jeux Olympiques d'été de 1900 à Paris, le ballon rond était pourtant moins bien considéré que le tir à l'arc, que le croquet ou le water-polo. Trois disciplines qui, n'en déplaise aujourd'hui à ses pratiquants, peinent à dépasser le seuil de confidentialité. Alors qu'est-ce qui fait le succès d'un sport et à contrario, qu'est-ce qui l'empêche d'émerger ou de se maintenir à un haut niveau de notoriété ? Pourquoi n'y a-t-il pas de curling au Stade de France ? C'est notre sujet du jour. Et pour répondre à cette étrange question, trois invités. Catherine Louveau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue du sport, professeure à l'université Paris-Sud Orsay. Vous intéressez notamment aux inégalités hommes-femmes dans le sport, en tout cas la représentation du sport féminin. Et pour discuter avec vous, une historienne du sport, Daphné Bols, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'université de Rouen. Vous travaillez sur les enjeux politiques et culturels du sport et vous avez publié aux éditions du CNRS en 2008 les arènes totalitaires, fascisme, nazisme et propagande sportive. Puis troisième invité, Pierre Galli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes le chef de la rédaction sport de l'AFP. L'AFP, c'est l'agence France Presse qui évidemment va beaucoup parler de road football, mais qui ne parle pas uniquement de ce sport. C'est la raison pour laquelle voilà, on voulait avoir quelqu'un qui a une vision un petit peu large des disciplines sportives du moment. Alors je dis, on va parler d'autres sports, mais je voudrais quand même qu'on commence par le football, peut-être pour l'évacuer assez rapidement. Daphné Bols, pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui le football écrase tout, en tout cas donne cette impression de tout écraser sur son passage et de laisser finalement assez peu de place aux autres disciplines sportives ?
Eh bien, je pense que déjà pour comprendre les différences de médiatisation des différents sports dans l'histoire, il convient de raisonner en termes d'enjeux. Hein, le football que l'on connaît aujourd'hui, c'est finalement le résultat d'un processus très long, hein, puisque le foot se solidifie, on va dire, au 19e siècle en Grande-Bretagne, ensuite il est importé en France. Et donc, si on raisonne en termes d'enjeux, on va pouvoir comprendre pourquoi le football est tout à fait dominant. Hein, alors, mais pas que le football, d'autres sports aussi. Hein, il y a d'une part les enjeux diplomatiques qui font que la France veut avoir une visibilité et du coup il y a des enjeux politiques si vous voulez. Il y a évidemment des enjeux économiques, hein, je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission. Le football s'est aussi imposé pour des raisons culturelles, si vous voulez. D'une part, notamment en raison de la présence anglaise, britannique en France, qui a importé le football et ensuite qui a été développé essentiellement pour des enjeux économiques.
Donc il y avait une domination politique voilà, qui a permis à ce sport de se développer. On a trouvé sur Facebook alors, un article d'un certain Thomas Gestin, je ne sais absolument pas qui c'est, mais enfin bon, il a essayé de réfléchir aux raisons qui font qu'aujourd'hui le foot est le sport le plus populaire. Il en a trouvé neuf, je ne vais pas forcément tout vous les dire, mais il évoque des règles qui sont intelligible, du rythme dans le jeu, il y a peu de rôle ingrat, c'est-à-dire que quel que soit le poste qu'on occupe, a priori on a une certaine forme de visibilité, en tout cas d'intérêt à jouer. Il y a l'utilisation d'une balle et la balle c'est vraiment quelque chose qui participe de tout un tas de sports. On peut y jouer sur n'importe quel terrain, on peut y jouer avec des configurations de 3, 4, 7, 11 joueurs, également une élasticité du temps de jeu. Toutes ces raisons-là, Pierre Galli font qu'on pourrait considérer le sport comme presque une forme d'aboutissement de ce que peut être un sport populaire.
Complètement. Enfin, moi, s'il y a trois éléments que je retiens pour expliquer le succès du football, c'est d'abord que c'est un sport qui est facile à comprendre. En gros, il y a une règle au football, c'est la règle du hors-jeu. Une fois que vous avez intégré la règle du hors-jeu, vous avez compris le football. Il y a beaucoup d'autres sports comme le basket ou le rugby qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre. C'est son universalité aussi. C'est un sport, vous l'avez dit, où on peut jouer sur n'importe quel terrain, mais on peut jouer aussi avec n'importe quel objet. On joue au football avec un ballon, mais on peut jouer aussi au football dans les pays d'Afrique avec une canette de coca ou sur une plage française avec une boîte avec une bouteille de plastique usagé. Et puis surtout, ensuite, c'est un sport qui a su forcer les portes de la télévision. Et c'est la télévision qui, dans les années 70 et surtout 80-90, a donné à ce sport une exposition et lui a permis d'exploser dans son exposition.
On peut dire que les dirigeants du football ont peut-être été plus malins que les dirigeants d'autres fédérations sportives, Catherine Louveau.
Enfin, les dirigeants plus malins, mais surtout, il y a eu très très vite, donc on est dans un sport professionnalisé, d'ailleurs comme tous ceux qui sont très médiatisés, et puis donc dans lesquels forcément du coup, les enjeux financiers et économiques sont considérables, parce que à l'origine donc de la médiatisation du football, qui est le premier sport, hein, quand on regarde toutes les données du CSA par exemple, sur le temps consacré chaque année sur la télévision aux différents sports, alors là les inégalités, on les mesure très objectivement, et donc ce sont, voilà, le football peut occuper presque plus d'un tiers, enfin presque la moitié du temps sur les chaînes hertziennes, hein, je ne compte pas le câble, etc., etc. Et donc, c'est dans les sports les plus médiatisés.
Parce qu'il intéresse le plus ou parce qu'il rapporte le plus?
Oui, parce qu'il fait audience. Parce que ce qui intéresse la télévision, c'est que ça fasse audience, c'est-à-dire qu'il y ait de l'audimat. Et là, ce sont des enjeux financiers aussi. Les minutes de publicité autour des événements sportifs ou à l'intérieur des événements sportifs sont majeurs et les télévisions achètent les événements. Mais je voulais revenir sur la question, pourquoi c'est populaire, enfin votre question si populaire. Alors c'est populaire au sens de son succès, pas forcément au sens de ceux qui regardent. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les personnes des milieux populaires qui regardent le football. C'est très partagé, en effet. En revanche, le terme d'universalité que vous avez repris, qu'on entend beaucoup actuellement, c'est le sport le plus universel. Oui, sur le nombre de pays dans lesquels on y joue. Non, si on prend en compte toute l'humanité, dont je vais dire immédiatement qu'elle est partagée en deux, il y a des femmes et des hommes, et nous parlons bien du football masculin et que du football masculin.
Il n'y a pas d'universalité du football du point de vue des femmes?
Ah ben non, il y a quelques pays dans lesquels le football féminin est développé. En France, on n'est pas à 5% de licenciés à la fédération. Ça fait quelques dizaines de milliers, donc elles sont très nombreuses. Mais pendant ce temps-là, il y a 2 millions d'hommes. Bon. Il y a l'Allemagne, il y a la Suède, il y a surtout les États-Unis où là-bas c'est un sport normal entre guillemets, alors qu'en France ça n'est pas du tout, c'est très très peu développé. Donc bien sûr que non. En Afrique, il y a quelques équipes au Sénégal qui très difficilement arrivent à participer à des championnats sans moyens, sans aide, sans rien. Donc non, le football dont nous parlons du football masculin.
Daphné Bols.
Oui, je voudrais rebondir aussi sur cette notion de sport facile à comprendre et facile à pratiquer. C'est vrai qu'il y a des conditions matérielles qui font que le football peut se pratiquer de manière assez facile. En même temps, le football, s'il a percé à partir de l'entre-deux-guerres, c'est parce que après le cyclisme, hein, qui était le sport dominant à l'époque, après le cyclisme, c'est le sport qui s'inscrit parfaitement dans le triangle sport-média-industrie. Hein, le cyclisme, qui est un sport professionnel dès le 19e siècle, se construit sur ce triangle sport-média-industrie. Hein, donc, on organise des rencontres sportives que les médias relaient pour faire vendre leurs journaux et ils sont subventionnés par des industries. L'industrie du cycle, en l'occurrence, en ce qui concerne le cyclisme. Et en fait, le football, c'est exactement le même schéma. J'ai envie de dire, c'est le même schéma pour tous les sports, sauf que les industriels ne vont pas forcément subventionner tous les sports de la même manière.
Alors, sport extrêmement populaire, malgré les réserves que vous évoquiez, Catherine Louveau. Pour autant, les sportifs alors, qui pratiquent ce sport ne sont pas forcément eux les plus populaires. Il y a un classement qui est fait pour le journal L'Équipe des 40 sportifs préférés des Français. Le dernier classement, il a été publié en décembre dernier. Ça a été fait par l'Institut TNS Sofres. Eh bien, le premier footballeur est seulement 13e de ce classement. Et en plus, ce n'est pas le footballeur le plus en vue d'un point de vue sportif, puisqu'il s'agit de Johan Gourcuff. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage, Pierre Galli ?
parce que les footballeurs, notamment en France, sont encore victimes du syndrome Nice-Na. C'est-à-dire, je rappelle, les footballeurs de l'équipe de France qui avaient fait la grève de l'entraînement, qui avaient refusé de s'entraîner sous les ordres de Raymond Domenech pour protester contre l'exclusion de Nicolas Anelka. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est assez paradoxal, les footballeurs souffrent d'une image totalement détériorée. Il est de bon ton souvent de les traiter d'analphabètes. Et c'est vrai qu'ils renvoient pas souvent une image très très positive par leur expression, notamment, et par leur comportement. Il se passe pas une semaine sans qu'on pointe encore aujourd'hui des paroles d'un footballeur. Il y a encore aujourd'hui Serge Aurier, l'arrière latéral du Paris Saint-Germain, qui s'est illustré par une sortie médiatique qui a fait le buzz, et ça entretient cette mauvaise image des footballeurs. Et peut-être que Johan Gourcuff, justement, vous citez cet exemple-là, est à rebours de cette image-là, parce que lui, il a une image un petit peu réfléchie. C'est quelqu'un qui réfléchit au jeu. C'est quelqu'un qui a une analyse de la vie et qui ne correspond pas tout à fait à celle de ses partenaires.
Est-ce que ça veut dire que pour qu'un sport ait une forme de notoriété assez importante, il y a aussi la nécessité que ceux qui le pratiquent au plus haut niveau aient une forme d'exemplarité, Catherine Louveau ?
Alors écoutez, on a des exemples qui permettent de douter sur la question de l'exemplarité. Je ne sais pas qui est en tête de ce hit parade dont vous parlez sur ce
classement. Alors c'est Florent Manaudou qui est un nageur, suivi de Tony Parker, basketteur, et Teddy Riner qui est un judoka.
Oui.
Je le précise pour ceux qui ne connaîtraient pas ces noms-là.
C'est intéressant parce que, par exemple, Teddy Riner, le judo qui peut avoir, selon les années, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, pas plus, guère plus, de retransmission à la télévision, toutes chaînes hertziennes confondues. Donc c'est un sport très très peu médiatisé, on le voit plutôt au moment des Jeux Olympiques. Et donc la question qui était, en fait, est-ce qu'il faut des, par exemple, est-ce qu'il, quand il y a des vedettes dans un sport, est-ce que ça aide à sa médiatisation, à sa popularité, à son intérêt pour le public, etc. Ben, le judo est cet exemple même d'une discipline où on a eu des grandes vedettes, des David Douillet et Teddy Riner, par exemple, et alors que ce sport est très très peu médiatisé. Donc évidemment, ça ne suffit pas.
Donc, y a peut-être d'ailleurs un cas d'école par rapport à ça. Je vais vous poser une colle. Enfin, si vous y répondez, vous êtes très fort. Mais est-ce que vous savez qui est 30e de ce classement ?
Une fille ?
Non, c'est pas une fille. Non, ça n'est pas une fille. C'est un garçon. Vous allez peut-être reconnaître qui c'est.
L'arrivée de Martin Fourcade. Oh, il n'a pas autant d'avance que sur les autres compétitions jusqu'à présent. Il va devoir s'arracher jusqu'au bout. 20 secondes désormais pour rallier cette ligne d'arrivée qui semble interminable, mais il va faire l'effort nécessaire pour aller conquérir un quatrième titre mondial. Il l'a fait, Martin Fourcade, même avec un 19 sur 20, il est trop fort.
À la championnat du monde à Oslo, c'était au mois de mars dernier, championnat du monde de biathlon, discipline extrêmement peu pratiquée en France. On en a environ à 400 licenciés, et pourtant ces épreuves-là ont été retransmises parce qu'il y avait ce sportif qui est champion olympique et qui portait sa discipline. Catherine Louveau.
Mais c'est je veux dire, le biathlon, bien sûr, et il y a beaucoup de grands sportifs et sportifs comme ça. Il n'y a pas là les éléments de ce qui fait spectacle. Ce qui fait spectacle et qui est présent, par exemple, dans le football, c'est le drame. Le drame au sens de, il faut qu'il y ait une unité de temps, une unité de lieu. Enfin, on voit bien, en tout cas, que ces sports-là font spectacle, c'est-à-dire un affrontement, de préférence entre deux équipes, deux adversaires, de préférence en face à face, c'est-à-dire une sorte de rapport de force. Alors, il peut aussi y avoir la question de l'exploit, des records. Donc, quand on a potentiellement des records à battre sur de la course à pied, sur du saut à la perche, ça peut faire un petit peu audience. Et donc, le drame, c'est qu'il faut que ce soit du suspense dans une unité de temps très restreinte. C'est pour ça que le tie-break a été inventé au tennis, d'ailleurs, pour que les matchs ne s'éternisent pas et qu'on garde une sorte de suspense. C'est pour ça aussi que le tennis féminin est beaucoup plus regardé, il faut beaucoup plus audience aujourd'hui que dans les années 80, où on trouvait les spectateurs, trouvaient les téléspectateurs, les échanges féminins non intéressants. Elles faisaient du jeu de fond de cours. Et elles échangeaient. Et à partir du moment où elles ont commencé à jouer, j'allais dire, comme les hommes, et à monter au filet, à attaquer et à être beaucoup plus agressives dans le jeu, eh bien, il y a eu beaucoup plus de public. Elles ont fait spectacle.
Ah bah ça veut dire quoi, Pierre Galli ? Ça veut dire que une fois que Martin Fourcade aura arrêté sa carrière, ou bien qu'il gagnera beaucoup moins de titres qu'il n'en gagne aujourd'hui, le biathlon retrouvera la confidentialité qui était la sienne avant justement sa médiatisation.
Non, pas forcément, parce qu'avant lui, il y a il y a eu un très grand biathlète qui s'appelait Raphaël Poiret, qui a commencé à sortir cette discipline de l'anonymat. Puis ensuite est arrivé Martin Fourcade. Et puis il y a Marie Dorin, qui est une jeune femme, qui a collectionné les médailles également au championnat du monde à Oslo au mois de mars, qui permet à ce sport d'émerger.
Et c'est vrai que c'est pas très spectaculaire.
Si, justement. Si, c'est un sport, vous parlez. Il y a une unité de lieu dans le biathlon, puisqu'on est sur un circuit, ça monte, ça descend. Il y a du drame, puisque il y a des épreuves de tir, on tire couché, on tire debout. C'est un système de course à handicap. Si, c'est un spectacle. Là, je suis pas totalement d'accord avec vous. Le biathlon est un véritable spectacle. Alors moi, ce que je pense.
Mais pourquoi on le voit pas plus, alors?
Pourquoi
il n'est pas médiatisé?
C'est un sport qui est médiatisé, puisqu'il vient de faire son entrée sur la TNT, puisque c'est l'équipe 21 qui l'a acheté, qui l'a acquis, qui en a acquis les droits. Et l'équipe 21, justement, ils ont fait d'excellentes audiences, ils ont battu des records d'audience, puisqu'ils ont frôlé ou ils ont dépassé le million de téléspectateurs devant les compétitions de biathlon, alors que c'était parfois durant des après-midi en semaine. Donc le biathlon, justement, il répond. Moi, je pense qu'il y a un élément fondamental pour expliquer le succès d'un sport à la télévision, c'est que c'est sa durée. Vous regardez un combat de judo, c'est très bref. Vous regardez un match de football, c'est borné dans le temps. Le coup d'envoi est à 21h, la fin du match, elle est à 22h50, 22h58. Le programmateur d'une chaîne de télévision, il adore ça. Sur un 10 km ou un 20 km de biathlon, et c'est exactement la même chose. On sait le temps que va durer la discipline et le drame, quelque part. Il y a certains sports qui n'ont pas su s'adapter à ça. Le tennis a su s'y adapter, et encore, il commence ça pose problème, puisque il y a parfois des matchs qui vont très très loin. Le volley a également changé son système de décompte des points pour s'adapter à la télévision.
Daphné Bols, je rappelle que vous êtes historienne du sport. Est-ce que la notoriété, je reviens quand même sur cette notion-là, la notoriété des sportifs de haut niveau, elle permet à certains sports d'émerger, voire de se maintenir? Est-ce que, je sais pas, dans l'histoire de certains sports, on constate aussi qu'il y a un moindre intérêt, alors pas forcément pour le biathlon, mais pour d'autres sports, où quand ils ne sont plus portés par des champions nationaux, retrouvent un petit peu leur anonymat?
Alors justement, c'est très intéressant cette question de la mise en scène des athlètes de haut niveau, parce que historiquement, toutes les disciplines n'étaient pas intéressées par la médiatisation. Si on revient aux origines du sport moderne et l'héritage coubertinien qu'on en a, le sport, c'est une pratique d'élite, c'est une pratique qui est organisée d'une manière très stricte, selon des règles très strictes. D'où le débat amateurisme-professionnalisme qui est essentiel dans l'histoire du sport, en Grande-Bretagne évidemment, mais aussi en France. Et donc on voit par exemple des disciplines sportives qui, à la fin du 19e siècle, veulent garder leur autonomie. À la fin du 19e siècle, en 1889, est fondée l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Si vous voulez, c'est la fédération des fédérations qui est dominée par cet idéal olympique élitiste. Et vous avez des fédérations qui ne veulent pas participer à cette union parce que elles veulent garder leur autonomie. Soit parce qu'elles sont très élitistes, comme le golf par exemple, soit parce qu'elles ont été fondées avant et que là aussi il y a des raisons sociologiques, on va dire, comme l'alpinisme.
Vous voulez dire quoi, Daphné Bols? C'est-à-dire qu'il y a certains sports, par exemple, qui en tout cas fuient ou en tout cas ont certaines préventions par rapport à une forte médiatisation de certains de leurs athlètes et qui préfèrent...
Je veux dire que cette médiatisation n'a pas toujours été essentielle dans le sport. Et on a par exemple l'exemple de...
Mais est-ce qu'elle l'est aujourd'hui?
Ah oui, je pense qu'elle l'est aujourd'hui, tout à fait. Je pense que la médiatisation est essentielle pour toutes les fédérations sportives et pour la survie de tous les sports.
Catherine Louveau?
Ben oui, justement, mais les sports sont inégalitaires devant cette médiatisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fédérations, il y a 10 ans, 15 ans, des fédérations payaient pour passer, pour être médiatisé. On sait qu'aujourd'hui, donc c'est un grand marché, la question de l'achat des manifestations sportives par les chaînes et donc par les médias. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a été question aussi de faire payer, y compris les retransmissions radiophoniques des manifestations sportives, les commentaires, etc. Ce qui faisait que ça risquait de ne pas être ouvert et accessible à tous, je veux dire à tous les auditeurs, auditrices, etc. Donc, cette médiatisation, elle est très inégalitaire entre les sports. Je parlais tout à l'heure du judo. La voile, j'ai regardé quelques données. La voile, ça peut être 2-3 heures par an, hors année olympique, bien évidemment. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, il y a quand même les sports les plus médiatisés. Ce sont lesquels? C'est le football, le tennis, le rugby, le cyclisme, les sports mécaniques. Ce sont ceux qui ont le plus grand nombre d'heures. Ce sont des sports professionnalisés. Sur Canal+, par exemple, on va trouver beaucoup la boxe, le football américain. Il y a eu pas mal de basket aussi. Bon, voilà. Globalement quand même, pendant tout ce temps-là, donc ce sont des sports professionnalisés avec de très forts enjeux financiers, les manifestations se vendent très cher, et bon, voilà, la retransmission, je veux dire les droits de retransmission, hein, on sait que ça fait vivre aussi le comité olympique, etc. etc. Et je dis au passage que dans tout ce temps-là de retransmission, qui occupe plus des deux tiers du temps à la télévision, on ne verra des femmes que dans le tennis.
Alors on va revenir assez rapidement sur la question des femmes qui est importante évidemment, Catherine Louveau, mais juste une question. Vous évoquiez Canal+, Pierre Galli, il y a peut-être enfin, me semble, un contre-exemple, c'est-à-dire aussi peut-être de sport qui passe justement sur des médias, alors qui ont fait des retransmissions sportives leur spécialité, mais qui peut-être sont moins accessibles parce que proposant des retransmissions en scripté et qui peuvent renvoyer certains sports vers une forme de discrétion plus importante. Je pensais notamment à la Formule 1, par exemple. Là, il y a quand même des enjeux financiers énorme, et pour autant on a l'impression que, alors peut-être parce que c'est diffusé sur une chaîne cryptée aujourd'hui et peut-être aussi parce que ce sont des grands prix où il y a assez peu de suspense, parce qu'en général au début du championnat on sait à peu près qui va le remporter à la fin, et est-ce que finalement une trop forte, comment dire, personnalisation, une trop forte domination de certains athlètes dans disciplines comme la Formule 1 ne nuit pas à ce sport?
La Formule 1, c'est la caricature du sport professionnel et du sport spectacle. C'est-à-dire que Formula One Management, là, qui gère les droits de la Formule 1, qui est menée par Bernie Ecclestone, Formula One Management a fait le choix de l'argent notamment sur les retransmissions, sur les droits de télévision, a privilégié l'argent au détriment de l'audience. C'est ainsi qu'en France, jusqu'en 2013, je crois, la Formule 1, par exemple, était diffusée par TF1, donc était accessible à tous. Et parce que Canal+ est arrivé, la Formule 1 est désormais sur une chaîne à péage. Mais je vais rejoindre ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une étude du CSA sur le marché des droits sportifs, donc dont certains chiffres sont publiés ce matin dans l'équipe. Donc montre que le football est loin devant en termes de répartition de la valeur, etc. Mais surtout, elle montre une chose, cette étude, c'est que le nombre de sports diffusés à la télévision est en hausse de 60% entre 2012 et 2016. Il y a aujourd'hui notamment 35 diffuseurs de disciplines sportives contre 7. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aujourd'hui? Eh bien, qu'il y a un certain nombre de disciplines reines, entre guillemets, qui sont sur les grandes chaînes à forte audience. Et puis, il y a tout un tas de petites disciplines qui ont trouvé refuge sur des chaînes peu accessibles. Et ça, quelque part, une espèce de loi des reins, ça conforte leur confidentialité, en fait, à ces sports.
Oui, Daphné Bols.
Oui, la question, c'est aussi, est-ce que ces chaînes vont réussir à percer ou à se maintenir? Parce qu'au 19e siècle, on avait énormément de presse, notamment régionale, et de presse aussi sportive, locale. Et en fait, il y avait énormément de titres qui apparaissaient et qui ensuite disparaissaient.
Non, là, en l'occurrence, je pense que c'est l'alliance des faibles, quoi. C'est terrible à dire. C'est des petits sports qui s'allient à des chaînes en difficulté qui sont bien contentes de trouver à moindre coût des programmes qui vont leur permettre de remplir leur grille et de montrer, de débiter de l'image à l'heure, sans grand frais.
Alors on voit bien aussi qu'il y a certains sports qui bénéficient d'une exposition médiatique à l'occasion de grands événements ou quand des équipes justement sont particulièrement performantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez d'abord ce classement qui est celui du sportif français de l'année qui a été fait par France Info ces dernières années. En 2014, c'était le perchiste Renaud Lavillény qui avait été élu par les auditeurs de France Info comme le sportif de l'année. L'année précédente, c'était à nouveau le fameux basketteur Tony Parker. Et en 2012, et ça devrait vous faire plaisir, Catherine Louveau, une certaine Céline Dumerc.
La nouvelle reine du basket féminin s'appelle Céline Dumerc. Et si la France joue ce soir la demi-finale du tournoi olympique, c'est en grande partie grâce à elle.
Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais aussi que c'est elle qui m'anime, c'est toute mon équipe. J'ai besoin de me sentir légitime au sein d'un groupe parce que je suis capitaine, parce que je suis meneuse de jeu. Donc j'ai besoin d'avoir le soutien de mes coéquipières, elles me le montrent, ça me libère et après c'est les Jeux Olympiques.
Et sa performance depuis le début des Jeux ne passe pas inaperçue. La Française a même reçu les félicitations de Tony Parker qui tient le même rôle qu'elle chez les garçons.
Félicitations aux filles. Quel match, Céline, tu m'as fait kiffer.
Voilà, Céline Dumerc, la capitaine de l'équipe de France de basketball. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, c'était en 2012. Céline Dumerc, qui, comme d'ailleurs aucune de ses coéquipières, ne figure pas dans ce classement des 40 sportifs préférés des Français. Il y a 4 femmes, voilà. Catherine Louveau, dans ce classement. La première, elle est 6e, elle n'est pas si mal placée que ça. Non, 8e, pardonnez-moi. Elle est 8e, c'est Jenny Longo. Nilongo, la cycliste. Oui, mais ensuite, les autres, elles sont dans les 40e, entre la 40e et la 50e place. Comment se fait-il que des sportives femmes ne réussissent pas, en tout cas, à maintenir aussi leur sport, leur discipline, à de forts niveaux de notoriété? C'est quoi? C'est parce que les médias ne jouent pas le jeu?
Ben voilà, quand on parle sport, on voit homme, masculin, virilité, affrontement, compétition, sur lequel on associe très très peu les femmes. Quand je vous ai dit tout à l'heure le hit parade entre guillemets, en nombre d'heures, du temps de diffusion d'événements sportifs, football, cyclisme, rugby, Formule 1, boxe, etc. Ben on ne voit pas de femmes. C'est-à-dire que en fait elles sont très peu. Alors après il y a une diffusion qui est conditionnée. Peut-être on va en reparler, mais on voit très très peu de femmes. Il n'y a pas de modèle. Et j'avais déjà vu un sondage de ce genre il y a 2-3 ans et dans le monde politique, quand il s'agit donc de citer des personnes les plus importantes dans le monde politique, on va avoir 75 hommes, 25 femmes et dans le monde sportif, 96 hommes, 4 femmes. Alors il y a 2 ans, c'était Marion Bartoli qui arrivait en premier, elle était à je ne sais plus quelle place, enfin voilà, elle n'était pas dans les 50 premiers sportifs qui étaient cités parmi les plus importants. Donc il y a une invisibilité globalement des sportives, enfin moi je le formule comme ça, c'est-à-dire que il faut et les basketteuses, c'est intéressant les basketteuses, parce que les basketteuses de Bourges, qui est une ville dans laquelle il y a un grand club de basket historique féminin, et donc elles ont fait il y a quelques années un événement justement, une sorte de manifestation, de colloque, pour montrer, dire et se plaindre aussi par rapport à leur médiatisation, pour montrer à quel point elles étaient très très peu médiatisées, eu égard justement à leur performance, c'est-à-dire au classement de l'équipe, etc. Donc les footballeuses, il a fallu que c'était une association féministe en 2011, les Françaises étaient très bien classées, qui manifestent et donc elles ont fini par être médiatisées sur la 6, mais bon, je veux dire que
il faut rappeler que le club le plus titré aujourd'hui en France dans le football français, c'est l'Olympique Lyonnais, mais c'est l'équipe féminine.
Oui, tout à fait, mais ça fait 45 ans que les filles sont à la Fédération Française de Football et qu'elles sont dans des compétitions, etc. Donc il y a quand même une invisibilité des filles. Alors pas toutes évidemment, mais quand on voit de la natation, bon voilà, il y a des sportives qu'on peut voir, mais il y a quand même globalement une invisibilité des femmes dans les sports médiatisés.
Daphné Bols, est-ce que de la même manière que les femmes ont mis du temps à émerger sur la scène politique, parce qu'elles ont eu des droits bien plus tardivement que les hommes, est-ce qu'on observe un phénomène identique? C'est-à-dire, est-ce que le sport et le sport de haut niveau, ça a longtemps été réservé aux hommes, ou bien est-ce que finalement, il y a eu des périodes peut-être qui étaient un petit peu plus favorables aux femmes?
Oui, tout à fait. Le sport, je l'ai rappelé, hein, c'est un mouvement qui s'est construit au 19e siècle. Il a commencé à se construire au 19e siècle. Il évolue évidemment encore de nos jours. Il évoluera heureusement. Donc, au 19e siècle, où les femmes étaient totalement dominées dans la société, il allait de soi pour l'immense majorité, on va dire, des hommes, mais même pour les femmes elles-mêmes, que ben, le sport, c'était surtout quelque chose de masculin. Pierre de Coubertin était un misogyne notoire. Les Jeux Olympiques, ce n'était évidemment pas pour les femmes. C'était une aberration absolue pour lui.
Pour quelle raison ? Pour des raisons de bienséance ? Pour des raisons de performance ? Parce qu'on considérait que les femmes ne pouvaient pas avoir les mêmes performances physiques que les hommes ?
Oui, tout à fait. Alors, d'une part, les femmes devaient rester à leur place, hein, qui était donc à la maison, au foyer. Et puis, d'autre part, il y avait des représentations sur le corps des femmes et sur le fait qu'on se disait que les femmes ne pouvaient pas, le corps féminin n'était pas capable de réaliser des performances sportives extrêmes. On pensait que c'était très mauvais pour les femmes et surtout que ça les empêchait d'avoir des enfants. Hein, donc il y avait cette crainte, déjà qu'on est au 19e siècle, la fin du 19e siècle, dans la crainte d'une dégénérescence de la race. Si en plus les femmes se mettent à faire du sport, ben, on va tout droit à la catastrophe. À tel point qu'il y a une fédération sportive féminine. Hein, le sport féminin s'est organisé de manière séparée pendant très longtemps par rapport au sport masculin. Et le sport féminin a émergé notamment pendant la Première Guerre mondiale. Hein, puisque les hommes étaient au front, les femmes ont fait, on le sait, tourner l'industrie, mais aussi elles ont eu cette liberté, si vous voulez, d'accéder au sport.
Pierre Galli.
Même si Catherine Louveau a adressé un panorama assez sombre de la médiatisation du sport féminin à la télévision, je veux pas me poser en défenseur des gens qui font les grilles de télévision, mais il y a quand même, j'ai l'impression, des embryons de politiques volontaristes qui ont été menées. Vous parliez de l'équipe de France féminine de football. Il y a quand même eu l'an dernier, pendant la Coupe du Monde, il y a eu un match France-Allemagne qui s'était diffusé en clair sur la TNT. Je crois que c'était D8. Il y avait plus de 4 millions de personnes qui ont pu voir ce match parce que c'était attractif, parce que c'était peut-être un autre sport, un sport différent. Il y a eu un effort du service public également sur la Coupe du Monde féminine de rugby. C'était en août 2014. C'était la fin de l'été, et puis ça a amené à la découverte d'une pratique différente du sport, parce que peut-être que le rugby actuellement est en train de s'enfoncer dans des affrontements bloc contre bloc, et puis les femmes ont démontré qu'elles pouvaient pratiquer ce sport-là de façon un petit peu différente, de façon un petit peu plus aérienne et enlevée et joyeuse. Elles ont amené une autre façon de pratiquer le rugby.
Il y a aussi de fortes incitations, je pense notamment à celle du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a lancé, c'était en février dernier, les 4 saisons du sport féminin, où sur les télévisions et à la radio, tout secteur confondu, hein, secteur public et secteur privé, il y avait des reportages, des retransmissions sportives pendant un week-end. Est-ce que pour vous, Pierre Galli, par exemple, c'est la bonne façon de procéder pour médiatiser davantage ou faire émerger certaines disciplines pratiquées par les femmes ? Là, on est dans quelque chose de très incitatif.
C'est une politique volontariste. Alors après, il faut que la compétition elle-même en vaille la peine vraiment. Mais peut-être que c'est une façon de faire découvrir aux gens que toutes les compétitions féminines valent la peine d'être regardées, peut-être valent la peine d'être médiatisées.
Catherine Louveau.
Je suis forcément très critique sur ce que j'appelle un gadget. Un gadget, pourquoi ? Il y avait les 24 heures du sport féminin les années antérieures, hein, et donc Radio France, France Inter, enfin bref, on a compté, mais on comptait des minutes par-ci, par-là, des minutes sur telle radio, des minutes sur telle télévision pour peut-être voir un sport méconnu, d'accord, mais enfin, et le reste de l'année, donc... la question, c'est de pouvoir donc diffuser, commenter, en effet, les compétitions féminines, comme on le fait pour les compétitions masculines. Il y a quand même un décret de 2004 qui fixe la liste des 21 événements majeurs qui doivent être diffusés sur les grandes chaînes hertziennes d'accès public. Donc, bon. Et dans ces 21 événements, très majoritairement, on a, enfin je les avais à peu près comptés, il doit y en avoir 4 sur lesquels on parle d'événements féminins, c'est-à-dire le championnat d'Europe, du monde, de basket, de hand, féminin et masculin. Tout le reste, on ne dit pas le sexe, c'est masculin forcément, puisqu'on parle championnat d'Europe de football, les mondiaux de ceci, les mondiaux de cela, etc. Bon. Donc là, il y a déjà de très très fortes inégalités, c'est quand même un décret qui fixe donc ces obligations. Donc, distiller comme ça sur un week-end quelques minutes de présence de femmes dans les sports, ça, c'est pas ça qui fait changer les choses. C'est comme de faire la journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Ça ne change rien au rapport homme-femme dans le monde du travail, politique, etc., etc. Quoi.
Bon, donc de fortes inégalités entre les disciplines selon qu'elles sont pratiquées par les hommes ou par les femmes, et puis de fortes inégalités de notoriété en fonction aussi de certains sports pratiqués indifféremment d'ailleurs par des hommes ou des femmes. Il y a un livre assez marrant qui a été publié l'an dernier aux éditions de Noël. C'est une traduction, l'auteur s'appelle Edward Brooke Hitching. Ça s'appelle « L'encyclopédie des sports oubliés ». Il revient sur un certain nombre de pratiques qui ne sont pas passées à la postérité, comme par exemple le saut en ballon, la boxe avec feu d'artifice ou encore le lancer de renard, qui paraît-il, notamment en Angleterre, le lancer de renard était abondamment pratiqué à une certaine époque. Et puis, il évoque aussi un sport, alors là, qui est beaucoup plus récent, mais dont j'avais totalement oublié l'existence.
Et ça, c'était pas une défaillance, c'était un mouvement qui semblait voulu.
Oui, Herman se prépare très lentement à son début de routine, et ensuite il lance ses gros sauts, comme là un 2,5, pour un peu se relaxer au départ avec sa musique. Et ensuite il lance ses gros mouvements, il utilise bien la hauteur, encore une fois un 2,5, ce qui lui donne beaucoup, beaucoup de points.
Il y a peut-être plus d'élégance dans le mouvement exécuté par les dames, plus de dynamisme et de force dans le même mouvement exécuté par un homme.
Oui, c'est ce qui est.
Alors, on a eu énormément de mal à trouver un extrait en français de commentaire de cette discipline. Je ne sais pas si vous avez reconnu les uns et les autres de quoi il s'agit. Non, j'ai l'impression que non. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Calgary, c'est au Canada, en 1988. Donc, Jeux Olympiques d'hiver. Et le sport, c'est le ballet à ski. Et oui, on faisait de la danse sur des skis. Daphné Bols, ça vous rappelle quelque chose, cette discipline qui était une discipline qui n'était pas une discipline officielle, mais qui était en démonstration. Elle a été aussi à Albertville en 1992, donc c'est encore plus récent. Finalement, ça a disparu. Vous en souveniez ?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu énormément de pratiques ludiques qui ne se sont pas sportivisées, comme on dit. Alors là, on a le ballet à ski, très bien. Il y a aussi encore de nos jours des championnats du monde de ballon prisonnier. Dans certains pays, c'est beaucoup pratiqué, c'est presque une discipline.
Championnat du monde de ballon prisonnier.
Oui, ça existe. En tout cas, championnats nationaux. Il y a des disciplines qui sont un peu exotiques pour nous, qui le sont beaucoup moins dans d'autres pays. Donc, pourquoi pas le ballet à ski.
Le ballet à ski, vous en souveniez, vous aussi, Pierre Galli, est-ce qu'elle
Oui, on a dû couvrir. Si c'était un sport de démonstration, je ne doute pas que les collègues qui étaient à l'époque à Calgary ont dû couvrir.
D'autant qu'il y avait un champion français, il s'appelait Fabrice Becker, figurez-vous.
C'est possible, mais c'est tout simplement le petit frère du ski freestyle qu'on voit aujourd'hui, puisque il y a ce qu'on appelle le halfpipe ou des disciplines comme ça qui sont rentrées complètement, qui sont même pas sport de démonstration, mais qui sont rentrées au programme olympique et qui sont très attractifs. C'est d'ailleurs des disciplines qui menacent le ski traditionnel. Maintenant, on fait partir les skieurs tous en même temps. On les fait partir par groupe de 4. On leur fait dévaler la même pente. Il y a des chutes. On s'accroche, on se double, on se redouble. Et c'est beaucoup plus spectaculaire. Voilà, c'est en train d'acquérir et de conquérir de l'audience auprès des télévisions.
Notre dernier grand champion qui a été aussi le premier, on en verra peut-être plus d'autres de ballet à ski, Fabrice Becker. Il a été retrouvé quelques années plus tard, je ne me souviens plus par quel journal, mais il y avait l'interview où il essayait de comprendre pourquoi finalement sa discipline n'avait pas fonctionné. Il disait on ne vendait pas de ski de ballet au grand public, il n'y avait pas de support économique. Catherine Louvaux, on en revient à la question de l'argent finalement.
Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce n'était pas assez spectaculaire, on était dans une esthétique, quoique la question de l'esthétique, l'artistique, c'est bien vendu avec le patinage artistique, mais la gymnastique par exemple, qui se vendait entendait beaucoup à la fin des années 70, mais en particulier avec Nadia Comaneci, qui a vraiment aidé beaucoup à la médiatisation de la gymnastique. Ça n'a pas été suivi parce que voilà, il n'y a pas d'affrontement, de drame, hein, de mettre les skieurs en parallèle, justement, ça accentue le côté spectaculaire. Et il y a beaucoup d'autres sports, hein. Il y a en France beaucoup de jeux traditionnels dans lesquels il y a énormément de monde. Les joutes nautiques, la balle au tambourin, il y en a que dans le département de l'Hérault, la boule de fort dans l'Anjou, le Maine-et-Loire, etc. Des dizaines de milliers de gens pratiquent ces activités. Et ce sont des activités sportives, traditionnelles, mais pas médiatisées.
Il est 18h59, c'est donc la fin de cette émission. Je me rends compte qu'on n'a même pas parlé de curling qui faisait l'objet justement du titre de notre émission. Pourquoi n'y a-t-il pas de curling au Stade de France? Je crois que Catherine Louveau, vous aviez une réponse toute simple déjà.
Toute simple? Il faudrait d'abord construire la patinoire.
Ben voilà, on va dire qu'on se contentera de cette réponse puisqu'il est trop tard pour en discuter davantage. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir parlé de sport et pas seulement de football. Je rappelle quand même l'Euro 2016, ça commence quand? Non, allez, vous le savez tous, c'est vendredi. Merci Daphné Bols, Pierre Galli et Catherine Louveau. Merci également toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Bayer, Tanguy Omri. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean-Frédérics. Demain, du PKK au Peshmerga, avons-nous succombé à la kurdomania? Tout de suite, c'est ping-pong. Mathilde et Martin, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé, enfin un sport minoritaire. Hein. Un petit peu de ping-pong, on déhausse les raquettes.